Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la BPI et au Centre Pompidou pour ce tribunal pour les générations futures autour de la question « Faut-il supprimer les frontières ?» Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Cet événement est imaginé par Ouzbek Erika, le média Ouzbek Erika, et il a été organisé, ce tribunal pour les générations futures, par le service développement culturel et le service savoir pratique de la BPI, en partenariat avec le Festival des idées, pour la quatrième, avec qui nous collaborons pour la quatrième édition. Je passe tout de suite la parole à Raphaël Constambet, responsable du Festival des idées, et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci beaucoup, Marie. Effectivement, bonsoir, bienvenue à ce tribunal des futures, les générations futures, il faut que je le dise dans le bon sens, organisé en partenariat avec la BPI et le Festival des idées Paris. Je tiens bien entendu à remercier Marie, Caroline et toute l'équipe de la BPI avec qui nous travaillons depuis 4 ans, car effectivement, c'est la quatrième édition du Festival des idées Paris. Le Festival des idées Paris est une action science en société. Et chaque année, nous essayons de traiter un enjeu sociétal, fondamental, majeur et contemporain, de façon pluridisciplinaire. Donc, on fait venir sur des événements des chercheurs de l'ensemble des domaines de recherche, les sciences de la vie, les sciences exactes, les sciences technologiques de la Terre, les sciences sociales et sciences humaines. Et on essaye de faire parler toute cette communauté de chercheurs autour d'une actualité importante qui nous touche aujourd'hui au quotidien. Et nous essayons aussi de mélanger les formats. Donc ne pas uniquement mettre des chercheurs face à vous dans un discours frontal, mais voilà, de scénariser un peu les choses, changer les formats et rendre l'accès au savoir peut-être un peu plus ludique. Encore une fois, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas de simplifier les discours de la pensée sur des sujets majeurs, de garder ce discours bien complexe, car les sujets qui nous touchent au quotidien sont des sujets complexes, mais de rendre plus facile l'accès à ces sujets complexes. Je devrais peut-être dire, tout le monde a un tote bag. C'est très important. Je vous demande de vous balader dans les rues de Paris avec. Avec les points d'ironie tournés vers l'extérieur et pas cachés. Pour nous, le symbole, ce n'est pas un point d'interrogation à l'envers, c'est bien un point d'ironie, c'est un symbole très important pour nous au Festival des idées Paris, puisque le point d'ironie symbolise un peu le côté décalé qu'on essaye justement d'apporter à notre festival, ce côté décalé qui permet de changer un petit peu les perspectives que nous avons, la façon de voir les visions que nous avons sur les sujets contemporains. Je ne vais pas parler plus longuement que cela parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Le Festival des idées Paris continue demain, c'est le dernier jour au point éphémère. Là, on est à peu près à notre 40e événement sur 3 jours. Je suis franchement épuisé, mais je serai là demain à partir du midi au point éphémère également pour vous accueillir. On fait un petit brunch des idées demain midi, mais sans anticiper sur demain, profitez bien de ce soir. Je vous remercie.
Pour ou contre l'immortalité ? Faut-il une bonne dictature verte ? Veut-on vraiment d'un revenu universel ? Coloniser l'espace est-il moral ? Ouzbek Erika présente le Tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du Tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, rendez-vous sur ouzbekerika.com/tribunal. Maintenant, mesdames et messieurs, silence, la cour.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous allez assister ce soir à une séance du Tribunal pour les générations futures. Comme vous vous en doutez, nous sommes une juridiction un peu particulière. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera condamné. Mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. Les parties civiles sont absentes pour la bonne et simple raison qu'elles ne sont pas encore nées. En effet, au tribunal pour les générations futures, les questions sont débattues et tranchées dans l'intérêt de nos descendants. C'est donc l'avenir de l'humanité qui se joue. Et cet avenir, mesdames et messieurs, c'est vous qui allez en décider. Sans plus attendre, je déclare ouverte cette session du tribunal pour les générations futures. Avec nous ce soir, la procureure Birgit Holzer, représentante du ministère civil. Maître de la Porte, avocat de la Défense. Et à l'ordre du jour ce soir, faut-il supprimer les frontières ? Pour trancher cette question cruciale, nous avons besoin d'un jury. Ce jury devra écouter très attentivement les débats, car c'est à lui qu'il reviendra de rendre le verdict à l'issue de la séance, dans l'intérêt des générations futures. Je vais maintenant procéder au tirage au sort du jury. 5 personnes parmi vous vont être tirées au sort. Vous avez dû recevoir à cet effet un numéro. Je vais demander au numéro que je vais tirer de s'approcher de la scène et de s'installer ici, au premier rang réservé au jury. Merci de garder votre numéro à portée de main pour faciliter la célérité du procédure. Le numéro 39 sur papier blanc, avec liseré rouge. Personne n'a ce numéro ? Le numéro 100, avec un liseré jaune. C'est un beau numéro pourtant. Le numéro 62, avec un liseré jaune. Espérons avoir plus de succès avec le prochain. Le numéro 98, avec un liseré rouge. 98 rouge. Approchez-vous, monsieur. Le numéro 61, liseré bleu. 61 bleu. Monsieur, prenez place. Le numéro 60, liseré bleu. Monsieur ? Prenez place, monsieur. Prenez la mesure de la responsabilité qui va vous incomber. Le numéro 63, liseré jaune. Le numéro 64, liseré jaune. Le numéro 63, liseré bleu. Monsieur, prenez place, je vous prie. Très bien. Nous avons 3 hommes parmi les membres du jury qui, à vue de nez, m'ont l'air d'avoir entre 30 et 45 ans. Il serait souhaitable que le prochain numéro désigne une femme ou une personne plus âgée. Le numéro 61, jaune. Le numéro 87, liseré rouge. Je préviens ici l'assistance que si le prochain numéro désigne encore un homme, je récuserai le témoin suivant. Le numéro 57, jaune. Le numéro 99, jaune. Le numéro 38, rouge. Numéro 38, rouge. Poursuivons. Numéro 100, rouge. Nous poursuivons. Numéro 64, bleu. Monsieur, je suis désolé, je dois vous récuser. Numéro 66, bleu. Ah, une dame. Approchez-vous, madame. Madame la procureure, monsieur l'avocat de la défense, j'en profite pour vous rappeler que vous avez le droit de récuser un des jurés, notamment en cas de non-parité manifeste. Très bien. Notre jury étant au complet, nous allons pouvoir passer à la présentation des faits. Et donc, les faits qui vont nous occuper ce soir, mesdames, messieurs, concernent la question des frontières. Faut-il les supprimer ou les maintenir ? Dans les années 90, l'avènement de la mondialisation a ouvert les frontières à la circulation des capitaux, à la circulation des biens, et a fait miroiter à certains la possibilité d'un village global. Pourtant, force est de constater que les lendemains ont déchanté et que la circulation des personnes est largement restée lettre morte, ou plutôt, dirais-je, a créé une division dans nos sociétés entre ceux qui ont un passeport qui leur permet d'être partout chez eux et ceux qui sont nés dans un pays dont le passeport ne permet guère de voyager. Aujourd'hui, ces frontières sont régulièrement mises en cause. On les accuse d'être responsables de nombreux morts aux frontières. Faut-il rappeler, pour la seule Europe, que depuis le début des années 90, ce sont près de 40 000 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée alors qu'elles cherchaient l'Europe. Presque chaque semaine, une actualité tragique nous rappelle les destins brisés de celles et de ceux qui ont tenté de franchir ces frontières, parfois de façon illégale. Et donc, beaucoup appellent aujourd'hui à ouvrir les frontières, voire même à les supprimer, comme si elles étaient les scories d'un monde passé, d'un monde qui s'est finalement constitué au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, lorsque le traité de paix de Westphalie a établi la conception moderne de frontières et avec elle celle de souveraineté nationale. Pourtant, pour d'autres, les frontières restent un rempart, restent une protection, restent un marqueur de l'identité, d'un ensemble de lois et de règlements, et beaucoup craignent qu'une suppression des frontières n'amène un chaos généralisé et ne crée encore davantage de désordre et potentiellement d'inégalités et d'injustices que les frontières dans leur état actuel. On voit bien à quel point cette question des frontières aujourd'hui divise nos sociétés, nos gouvernements, parfois nos familles et nos cercles d'amis. On voit bien combien, autour de cette notion de frontières, se cristallise toute une série de passions et de tensions qui souvent vont nous renvoyer à la question de notre identité collective. On sent nos sociétés aujourd'hui divisées entre ceux pour qui les frontières constitueraient les scories d'un monde passé, à faire disparaître ou au moins à dépasser, et ceux pour qui les frontières constituent au contraire un dernier rempart, une dernière protection, quelque chose qui va organiser la vie en société, quelque chose qui va définir l'identité collective. Au point que beaucoup, aujourd'hui, souhaitent matérialiser davantage ces frontières, soit les fermer davantage, soit les marquer par la création d'un obstacle physique, un mur, une clôture, une barrière. Aujourd'hui, quasiment un pays sur trois dans le monde a une ou plusieurs de ses frontières murées ou clôturées. Et si l'on additionne la longueur totale des murs et des clôtures aux frontières, on arrive à une longueur de plus de 40 000 kilomètres, c'est-à-dire davantage que la circonférence de la Terre. Il y a évidemment ces murs aux frontières qui sont connus. Celui qui se trouve autour du tunnel sous la Manche, à Calais, celui, ou plutôt la clôture qui existe entre la Hongrie et la Serbie, évidemment le mur entre le Mexique et les États-Unis, et puis il y a toute une série d'autres murs et barrières qui sont moins connus du grand public et qui figurent moins souvent dans l'actualité. La clôture longue de 3200 kilomètres qui sépare l'Inde du Bangladesh, celle qui sépare le Yémen de l'Arabie Saoudite. En tout, il y en a environ une bonne soixantaine. Et donc, on voit bien cette tension profonde qui nous renvoie à notre identité collective, et c'est bien de ces questions que nous allons débattre ce soir. Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur le sujet, nous allons appeler à la barre plusieurs témoins. Ces derniers vont être interrogés tour à tour par l'accusation, puis par la défense, qui tenteront d'influer sur votre verdict. Si tout est clair ? Tout est clair ? Très bien. Parfait. Si tout est clair, j'invite à nous rejoindre sur scène Astrid von Bouzekist, Catherine Witten-Wilton-Wenden, Mathilde Dupré et Mathilde Unger. Madame von Bouzekist, vous êtes la première à vous faire entendre. Venez à la barre, je vous prie. Astrid von Bouzekist, pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour, s'il vous plaît ?
Astrid von Bouzekist, professeure à Sciences Po, et mon témoignage pour le bénéfice des générations futures.
Je vous remercie. Vous allez être interrogé 5 minutes par la procureure, puis 5 minutes par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Madame la procureure, le témoin est à vous.
Monsieur le Président, elle a levé la main gauche.
Je le jure.
Effectivement. Veuillez reprendre, Madame von Bouzekist, avec la main droite, s'il vous plaît. Levez la main droite.
Demande à l'accusation du témoin,
madame. Et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Très bien. Merci, monsieur l'avocat, pour cette réplique.
Bon, je peux commencer, du
coup. Madame la procureure, le témoin.
Merci, monsieur le président. Quelle est, selon vous, la légitimité des frontières qui ont été tracées de manière arbitraire, artificielle, par des guerres, dans le cadre de colonisation, en coupant à travers des communautés culturelles ?
C'est une excellente question qui renvoie au problème à la fois de la légalité et de la légitimité des frontières, me semble-t-il. Mais la plupart des frontières est de toute façon arbitraire. Si on songe, et même la géographie d'ailleurs n'est pas un bon argument, la géographie n'est jamais naturelle et la géographie est toujours un argument d'autorité. Elles sont arbitraires, notamment lorsqu'elles ont été conquises par la domination, par l'attribution illégale et illégitime d'un territoire, mais elles peuvent être légales, par exemple, lorsque les frontières, tout en restant relativement arbitraires, ont été décidées par des conférences post-conflit, des grands tribunaux, par exemple. Mais aussi arbitraire que soit le tracé initial, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, et on sera tous d'accord sur l'arbitrarité, parce qu'on ne peut pas régresser à l'infini pour établir des frontières justes, c'est que l'arbitrarité a des effets. C'est-à-dire, une fois qu'un territoire est formé, il a des effets sociaux, il a des effets juridictionnels sur les individus qui habitent ce territoire et qui se l'approprient. Pour une raison simple, c'est qu'au-delà de la frontière du territoire en question, il y a un autre territoire, quelquefois un autre peuple, avec une autre culture qui se cristallise dans le temps par le fait de vivre sur le même territoire. Juste pour finir, je pense donc que votre question est à la fois juste, évidemment, mais il me semble qu'il faut réfléchir aux frontières avant d'y réfléchir en termes d'arbitrarité, en termes d'effets sociaux et donc de relations à la fois entre les individus qui habitent un territoire et ceux qui se trouvent dans un territoire au-delà de celles qui ont été tracées.
Et si donc les frontières protègent d'une certaine manière ceux qui sont au sein des frontières, donc un statut de citoyenneté aussi, comment justifier donc le fait qu'il protège seulement ceux qui vivent au sein des frontières et pas ceux qui sont exclus?
C'est une bonne question. Le tout est de savoir...
Madame la témoin, je vous remercie de vous abstenir de porter un jugement sur la qualité des questions. Répondez simplement.
C'était quand même une bonne
question.
Bien,
monsieur le Président, je ne le ferai plus. La question que vous posez relève, à mon sens... je vais reformuler. Qu'est-ce qu'on protège? C'est ça la question. Est-ce qu'on protège une culture, une économie, un État-providence, etc. L'élément fondamental de protection, à mon sens, doit être la protection des droits humains. Et ça, ça ne relève pas nécessairement du tracé des frontières. Un État, lorsqu'il fonctionne bien, protège aussi ses non-citoyens, par exemple les réfugiés qui se trouvent sur son territoire, par exemple les résidents. Lorsque l'État fonctionne bien, je ne pense, il faut qu'il fonctionne bien pour le faire. Mais en principe, le statut de citoyen est un droit, d'abord, et il est lié, au-delà de la protection, à un territoire et à une juridiction. On sait que seul un État peut offrir les droits qui sont liés au stade de citoyenneté. Le droit d'avoir des droits, comme disait Hannah Arendt lorsqu'elle parlait des apatrides, est lié intrinsèquement au fait qu'il existe des États et des juridictions qui peuvent protéger leurs citoyens. Un autre problème que vous posez, me semble-t-il, est que ceux qui ne font pas partie du groupe des citoyens n'ont pas non plus participé à élaborer les lois qui potentiellement les excluent ou organisent leur exclusion. Ça, c'est un problème à la fois pour les migrants, bien entendu, mais aussi pour la pensée démocratique, puisque la pensée démocratique dit « est pleinement citoyen et pleinement participant au cercle démocratique, celui qui est auteur des lois et qui est soumis à ces lois ». Or, seuls les citoyens ont voix au chapitre, en l'occurrence. C'est lié au fait du tracé des frontières, en effet, et de la circonscription pertinente où ce sont les citoyens, aussi arbitraires que les frontières aient été tracées, qui participent à façonner ces lois.
Ce sera la dernière question, madame la procureure.
On sait qu'un grand nombre de problèmes politiques aujourd'hui transcendent les frontières, par exemple en matière d'environnement, de santé, de droits humains. Quel est donc le sens des frontières nationales aujourd'hui?
Je dirais que d'une part, tous les problèmes, les grands politiques contemporains sont communs à tous les États et à tous les peuples. L'environnement, la santé, les pandémies, le climat, évidemment. Le problème, c'est qu'on a le choix entre deux options. La première option, c'est une gestion par une entité cosmopolitique, forte, gestionnaire de ces problèmes-là, mais quelle serait sa légitimité? Il n'y a pas de société civile globale aujourd'hui, ni de parlement global dont une telle institution tirerait sa légitimité. Premier problème. Deuxième problème, si on s'en tient à la grammaire territoriale telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire celle des États-nations, et on peut plaider pour des frontières poreuses et ouvertes et amicales, eh bien, il faut miser sur autre chose, c'est-à-dire le transnationalisme, le multilatéralisme, par exemple, des politiques coordonnées et concertées pour lesquelles, en principe, encore une fois, il me semble que l'Union européenne n'est pas la plus mauvaise candidate.
Merci, Madame la procureure. Maître Delaporte, le témoin est à vous pour 5 minutes également.
Merci, Monsieur le Président. Madame Van Bouzekis, j'aimerais qu'on s'attelle à une question en particulier, la question migratoire, et que vous répondiez simplement à cette question. Est-ce que, selon vous, l'abolition des frontières, ce serait la fin des questions migratoires ?
À mon sens, non. Mais encore, faut-il savoir de quel type de migration on parle ? Est-ce qu'on parle des élites ? Pour les élites, il n'y a pas de frontières. Une sorte de cosmopolitisme empirique qui n'affecte pas les élites. Est-ce qu'on parle des réfugiés ? Est-ce qu'on parle des migrants volontaires, involontaires, du travail, etc., etc. Est-ce qu'on parle de gens vis-à-vis desquels on a des obligations particulières ? Tout ça, c'est des types de migration différentes. Je pense aux harkis, par exemple, aux anciens collaborateurs de l'armée américaine en Afghanistan ou en Irak, aux gourkas pour l'Angleterre, premièrement. Deuxièmement, je pense que ce à quoi il faut résister lorsqu'on justifie des frontières qui doivent être opposables, c'est qu'il faut être attentif à ne pas bafouer les droits humains, les mêmes que ceux qu'on rejette à l'intérieur des régimes démocratiques, c'est-à-dire tout ce qui est la race, le genre, la religion, la classe sociale. Voilà. Ça, ce sont des droits humains fondamentaux qui vont d'ailleurs... La liberté de mouvement aussi est un droit fondamental, mais c'est à cela qu'il faut s'opposer tout d'abord. Et les frontières sont un débat non pas secondaire, mais parallèle, me semble-t-il, à ceci. Je crois que le vrai problème, c'est pas tellement Enfin, une autre question qu'on pourrait se poser en tous les cas serait de dire, est-ce qu'il faut transférer les fonds et notre aide vers les endroits où les gens vivent, ça ne marche pas pour les zones de guerre, mais où les gens vivent dans la plus grande pauvreté, est-ce qu'il faut les faire venir chez nous ou les deux ? Est-ce qu'il faut trouver un bon équilibre entre le maintien de la liberté de mouvement et un accroissement, ou plutôt une diminution des inégalités économiques ? C'est un équilibre très, très difficile à trouver et je crois, là encore, que ça ne peut se décider qu'à l'échelle globale ou fédérale, au-delà des États des États-nations. Et enfin, dernière chose, juste pour finir, je pense que ça ne résout pas le problème des frontières internes qui, elles, perdurent.
J'aimerais que les jurés notent que Mme Van Bouzekis a dit que les frontières étaient une question secondaire.
Non, j'ai dit parallèle, excusez-moi.
Ah bon, vous avez dit secondaire.
J'ai dit non pas secondaire, mais parallèle.
Ah, chacun sait ce qu'il aura entendu.
Non, c'est ce que... Bon. Vous êtes partial, de toute façon, depuis le début, je le sais. Mais donc, ce ne sont pas les fonds du problème. Ce n'est pas le fond du problème,
maître,
la question de la frontière en elle-même.
Vous êtes pris de vous adresser au président sur un autre ton.
J'y veillerai. Ça n'est pas le fond du problème. La frontière, matériellement, ne sont pas le fond du problème. On est bien d'accord là-dessus.
Je dirais que oui. Ce n'est pas le fond du problème. Et je crois que même les chercheurs les plus radicaux, moi y compris, avons un peu revu notre copie et on raisonne moins en termes de... disons, de géographie et de tracé de frontières qu'en termes d'arguments démocratiques, comme je viens de le démontrer. Et je voudrais ajouter à votre question, je suis d'accord, les frontières ne sont pas le problème fondamental. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même deux vérités. Les peuples désirent des frontières, ou plus exactement, désirent des États. On ne peut pas passer sous silence le fait que les Kurdes, les Palestiniens, les États postcoloniaux souhaitent créer des États-nations. Et un État-nation suppose une frontière, parce qu'ils ont compris que seule une institution telle qu'un État peut protéger leurs droits, comme je le disais tout à l'heure.
Et ils sont légitimes à désirer cet État,
selon
vous ?
Ils sont tout à fait légitimes à désirer cet État pour deux, avec des frontières, donc pour deux raisons. La première, c'est qu'un peuple, et c'est un argument démocratique et de droit international, celui de l'autodétermination, c'est-à-dire le désir de s'autodéterminer. C'est un argument politique. La deuxième raison, je dirais, est le désir d'appartenance. C'est un des biens premiers que distribue une communauté politique. Ça peut aller dans le sens des sentiments partagés vers la nation, mais ça peut aller dans le sens aussi, cette appartenance, ce désir d'appartenance d'une société politique égalitaire. Mais cela suppose l'autodétermination, et l'autodétermination ne peut avoir lieu que dans une juridiction précise.
Monsieur le Président,
merci,
je crois que...
Maître, votre temps est écoulé. Okay. Madame von Bouzekis, merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, Catherine Vitol de Venden. Pouvez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Et je vais vous demander naturellement le même exercice. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour?
Monsieur le Président, je m'appelle Catherine Vitol de Venden, je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai écrit sur les frontières.
Merci beaucoup. Comme votre prédécesseur, vous allez être interrogé d'abord par la procureure Holzer, ensuite par Maître de la Porte. Mais avant cela, pouvez-vous vous aussi jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main droite et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Merci. Madame la procureure, le témoin est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Selon vous, qu'est-ce
Est-ce que je peux simplement vous demander de faire un pas de côté pour que je n'ai pas à me tordre pour voir la télé?
Selon vous, qu'est-ce qui est plus important? Le droit des États souverains de contrôler leurs frontières ou le droit des humains à la libre circulation?
Je pense que le droit à la libre circulation est un droit émergent. Aujourd'hui, les deux tiers de la population mondiale ne peuvent pas circuler librement, ça a été dit, à cause de l'obligation de visa. Et il y a une sorte de conflit entre, d'un côté, les États qui veulent continuer à gérer leurs frontières de façon classique dans l'ordre international des États, et de l'autre côté, les personnes qui circulent et qui se disent que tout circule, sauf les hommes et les femmes dans le monde. En fait, les frontières, aujourd'hui, elles sont souvent symboliques. L'État, pour exister, dit qu'il a sa frontière, pour montrer qu'il est souverain. Mais en fait, l'économie, les idées, les médias et beaucoup d'autres choses circulent en fait à travers les frontières, transgressent en permanence les frontières. Et il y a une sorte de fiction de frontières étanches pour toute une série de biens et services et aussi pour toute une série de personnes qui, eux, n'ont pas besoin de montrer patte blanche pour traverser les frontières.
Et donc, comment pourrait-on imaginer une ouverture possible des frontières pour un meilleur vivre ensemble?
Alors, je pense qu'on pourrait imaginer d'ouvrir plus pour plus de personnes. Aujourd'hui, les frontières sont fermées pour tous ceux qui sont considérés comme représentant un risque migratoire, pas tellement en raison de leur profil personnel, mais en raison du pays d'où ils viennent. Et pour certains, on ne peut quasiment aller nulle part parce qu'on leur impose des visas, quelle que soit la destination qu'ils se proposent d'atteindre, parce qu'ils viennent de pays pauvres et mal gouvernés et parfois en guerre. Donc c'est une assez grande injustice à l'échelle mondiale, parce que c'est une inégalité qui est liée au passeport. Et donc, on voit tous les effets de ces inégalités à travers ces personnes qui meurent aux frontières, ça a été dit, qui se retrouvent dans des camps, qui sont des sans-papiers, qui peuvent attendre pendant des années une solution légale à leur présence sur un territoire qu'ils ont atteint illégalement ou dans lequel ils se sont installés illégalement après être entré légalement. Et il y a une sorte de friction, si j'ose dire, entre un monde qui bouge d'un côté et des États qui se referment. Et aujourd'hui, il est plus facile de sortir de chez soi que d'entrer quelque part. Et dans le passé, c'était l'inverse. Il était difficile souvent de sortir de chez soi et assez facile d'entrer dans des États qui souhaitaient se peupler ou qui souhaitaient de la main-d'œuvre. Donc la logique migratoire s'est inversée en un siècle.
Pour ce qui est la fermeture ou la sécurisation des frontières dans nos pays, est-ce que ce n'est pas un gâchis économique de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup des milliards, des millions pour sécuriser les frontières?
Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est consacré au contrôle des frontières, qui, par exemple pour l'Europe, est assorti de toute une série d'instruments assez connus, le système Frontex pour gérer les frontières extérieures de l'Europe, notamment en Méditerranée, la prise des empreintes digitales, les centres de rétention et toute une série de camps qui sont construits aux portes des États que l'on veut protéger. Et on s'aperçoit que cet argent, finalement, pourrait être utilisé à autre chose, puisqu'on a quand même 30 ans d'échec, si j'ose dire, dans l'acharnement d'un certain nombre de grandes destinations au monde à vouloir rendre leurs frontières étanches, ce qui est une utopie. L'utopie, ce n'est pas l'ouverture des frontières, c'est leur fermeture, d'une certaine façon. Et pour économiquement, c'est un pari qui est perdant, parce que si plus de personnes pouvaient circuler à travers les frontières, ils pourraient d'une part envoyer plus d'argent dans leur pays, 530 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants du monde entier chez eux, il ne faut pas l'oublier, mais également ils pourraient créer des entreprises de part et d'autre de la frontière, précisément, aller et venir en fonction des besoins de l'économie, ce serait aussi des consommateurs un peu plus assurés que c'est ceux qui sont sans papier et qui rasent les murs quand ils ont osé transgresser la frontière. Donc on est perdant économiquement. Si j'ose dire, le politique est en contradiction avec l'économique dans cette affirmation de la fermeture de la frontière.
Donc au final...
Dernière question, Madame la procureure.
Dernière petite question. Au final, les frontières posent des problèmes et pour les migrants et pour les pays d'accueil. Et pour les nationalistes qui ont des arguments contre.
Les arguments qui disent qu'il faut davantage ouvrir les frontières, il ne faut pas oublier que c'est le thème du pacte de Marrakech de 2018 qui dit pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas faire appel à des passeurs pour traverser la Méditerranée? Donc ça veut dire ouvrir davantage les frontières, même si ça n'est pas dit dans la langue de bois du discours international comme tel, mais c'est ça, une immigration sûre, ordonnée et régulière. Et en fermant les frontières, on viole tous les jours les droits de l'homme, puisque tous les droits sont souvent fortement violés, transgressés, à travers précisément... le contrôle des frontières, à travers les centres de rétention, à travers les reconductions à la frontière, pour lesquelles il y a beaucoup de bavures policières. Aujourd'hui, il y a une sorte de fiction, si j'ose dire, que l'on va maîtriser les migrations dans le monde par les États, alors que le phénomène migratoire est une tendance structurelle du monde d'aujourd'hui.
Merci, Madame la procureure. Merci. Monsieur le Vocat, je vous en prie.
Merci.
Non, Madame le témoin, restez à la barre. Madame de Venet, restez à la barre.
Merci, Monsieur le Président. Madame Vittel de Vinden, vous défendez avec une très grande éloquence l'ouverture des frontières. Mais défendre l'ouverture des frontières, ça n'est pas défendre leur abolition.
Ah non, pas du tout. Je dis qu'il faut ouvrir davantage. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir les frontières tous azimuts demain. Je dis que l'objectif doit être... plus d'ouverture des frontières et, si possible, dans un certain nombre de situations, plus de frontières, ce qui était le cas du projet européen, par exemple.
Monsieur l'avocat, pouvez-vous faire...
Pardon ?
Vous êtes plus grand que la témoin, donc je ne peux la voir.
Oui, mais vous la connaissez, puisque je vous dénonçais aussi un problème de collusion très net, qui est que derrière, quand vous êtes... vous avez dit bonjour Catherine, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Je voudrais signaler ça au juré.
L'impartialité de la présidence
quand même,
de ce cours
savoir
ne peut
de quoi
être mise en cause.
Madame de Vinden, car on ne se connaît pas, nous. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un monde où on circule,
oui, tout à fait,
avec des frontières.
Tout à fait. Bon. Alors, en fait, ce monde où l'on circule avec des frontières, déjà, il y a un certain nombre de frontières qui se sont estompées. Par exemple, pour les Européens, la liberté de circulation qui fait partie de la citoyenneté européenne est un élément essentiel, si j'ose dire, pour les Européens, que de pouvoir circuler avec un titre d'identité éventuellement national ou même pas du tout si on traverse à pied et qu'on ne vous demande pas vos papiers. Donc l'Europe est un espace de libre circulation. Il y a pour les travailleurs le marché nordique du travail qui est un autre espace. On a eu à peu près 22 espaces dans le monde de libre circulation, surtout pour le travail. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, également l'UNASUR pour l'Amérique du Sud, l'ASEAN pour l'Asie, etc. Donc on va vers quand même des frontières qui s'estompent, notamment pour les travailleurs à l'échelle mondiale.
Mais est-ce que la disparition d'une frontière, ou son estompement jusqu'à sa disparition, est-ce qu'elle garantit l'égalité des droits à l'intérieur? Pas forcément.
Pour les Européens, oui, quand même, la suppression des frontières pour les Européens à l'intérieur de l'Europe a permis précisément d'asseoir la citoyenneté européenne, puisque l'essentiel de la citoyenneté européenne, c'est la liberté de circulation, d'installation et de travail, l'égalité des droits entre Européens et notamment la possibilité de mobilité pour ces Européens.
Et comment peut-on être sûr? Quelles seraient les conditions d'existence d'un monde sans frontières? Complètement sans frontières.
Il faudrait que ce soit un monde beaucoup plus égalitaire.
Si... Donc elles ne sont pas du tout réunies aujourd'hui?
Non, elles ne sont pas du tout réunies pour l'instant. C'est pourquoi les migrations sont si difficiles pour certains et si faciles pour d'autres. La frontière crée des effets pervers. C'est ça que je veux essayer de montrer.
D'accord.
Plus on ferme les frontières, plus les gens s'installent de façon aléatoire dans la clandestinité.
Oui.
Ils ne peuvent pas revenir chez eux. Ça bloque les allers-retours, si j'ose dire.
Oui,
plus on ouvre, plus les gens circulent et moins ils s'installent. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu pour l'ouverture à l'Est de l'Europe, ce qu'on voit pour les doubles nationaux, etc. Ce qu'il faut, c'est arriver à un monde beaucoup plus fluide, un monde où les personnes circulent comme les idées, les marchandises, les médias, etc. Et c'est bloqué, si j'ose dire, par l'existence de ces frontières qui créent précisément ces situations d'illégalité. Pourquoi est-ce que quelqu'un est plus illégal qu'un autre, par exemple?
Mais par exemple, un réseau social comme Facebook qui n'a pas de frontières, c'est désirable pour vous?
Ça peut l'être, à condition de contrôler le contenu éventuel. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui circulent. Le commerce est très largement mondialisé. Et pour toute une série d'éléments comme les études, par exemple, on a beaucoup ouvert les frontières pour les étudiants à l'échelle européenne et mondiale.
Mais ma question est que si les conditions ne sont pas réunies pour une ouverture des frontières, pour une disparition, hein, pas ouverture, disparition des frontières, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un monde qui n'est pas même celui que vous désirez?
Excusez-moi. Oui. Monsieur le Président,
Madame
les
la
questions
procureure.
Sont complètement orientées.
Bah oui.
Bien sûr, Madame la procureure, l'avocat est libre de mener l'entretien comme il lui convient.
Il essaie de mettre la témoin dans un coin avec ses questions.
Encore une fois, Madame la procureure, je n'ai pas à interférer dans la manière dont l'avocat de la défense conduit l'entretien.
Donc,
poursuivez, maître.
Donc, ma question.
Un monde plus égal pourrait permettre d'avoir beaucoup plus de frontières qui s'estompent ou qui disparaissent.
Oui, mais la disparition des frontières ne garantit pas un monde plus égal.
Non, c'est l'inverse. C'est le monde plus égal qui permet la disparition des frontières.
J'en ai fini. Merci, madame.
Merci, maître. Madame Vittel de Venden, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez maintenant retourner à votre place. J'appelle maintenant à la barre notre troisième témoin, Mathilde Dupré. Vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît, vous présenter et nous faire connaître les raisons de votre présence ici ce soir.
Bonsoir, je suis Mathilde Dupré, je suis co-directrice de l'Institut Veblen, qui est une association qui travaille sur les questions de réforme économique dont on a besoin pour la transition écologique. Et je travaille en particulier sur les politiques commerciales de l'Union européenne.
D'accord, qui était Veblen?
Un économiste.
D'accord, merci de le préciser pour le public. Même routine, vous commencez à la connaître. Maintenant, vous allez être interrogé par la procureure Holzer, puis par maître de la porte. Mais avant cela, même punition. Pouvez-vous, s'il vous plaît, jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main droite et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Merci. Madame procureure, le témoin est à vous pour 5 minutes. Je demanderai le silence dans la salle, s'il vous plaît.
Dans un contexte de mondialisation, où les capitaux et le commerce, de toute façon, dépassent les frontières, quel est aujourd'hui leur sens?
Alors effectivement, nous vivons dans un monde ouvert, où aujourd'hui les capitaux et les biens et les services, peut-être dans une un peu moindre mesure, circulent librement. Mais on l'a vu, ce n'est pas le cas pour les individus et notamment pour les travailleurs dans le cadre de l'organisation de l'économie. Mais ceci dit, nous vivons aussi dans un monde où toute l'organisation sociale, politique et juridique est construite à partir de l'échelon national et européen dans le cadre de l'Union européenne. Et donc toutes les règles qui définissent les modalités de vie commune, nos préférences collectives, le mode d'organisation de la vie économique, sociale, et politique reste nationale. Et donc aujourd'hui, finalement, ces arrangements collectifs sont bousculés de plein fouet par la mondialisation. Je voulais prendre un exemple qui est souvent cité sur les questions commerciales. C'est par exemple la question des pesticides. On sait qu'aujourd'hui, il y a des pesticides qui sont interdits d'utilisation dans l'Union européenne. Je pense par exemple à une substance qui s'appelle l'atrazine et qu'on a interdite parce qu'elle pollue les sols, elle pollue l'eau et elle a un effet sur la taille des fœtus pour les femmes enceintes qui pourraient être contaminées. Et en fait, on s'est rendu compte que si ces pesticides sont interdits dans l'Union européenne, ils sont encore aujourd'hui produits par des usines dans l'Union européenne pour être exportés vers des pays tiers qui ensuite produisent des aliments en les utilisant et parfois réimportent vers l'Union européenne ces aliments. Et donc on voit bien dans cet exemple que la libre circulation des biens peut conduire parfois à nier les préférences collectives qui ont été élaborées de façon démocratique et que donc faute d'accord sur des règles internationales ambitieuses dans un domaine comme celui des pesticides, il faut parfois accepter des restrictions au commerce pour pouvoir véritablement prendre en compte la question des générations futures.
Mais faudrait-il pas peut-être plutôt privilégier des accords, des règles ambitieuses à l'échelle internationale pour ne pas seulement protéger les consommateurs d'un État spécifique ou même d'une union spécifique, mais de tous les États?
Alors c'est une question importante. Je voudrais poser deux questions
encore
en réponse.
Encore une fois, abstenez-vous de porter des jugements sur la qualité des questions.
Je dis importante, c'est pas un jugement de valeur. Pardon ?
C'est quoi autre qu'un jugement de valeur ?
C'est une question en tout cas qui est centrale par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui.
C'est une question à laquelle je vous demande de répondre.
Donc j'avais en retour deux questions à vous poser. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible déjà de formuler des règles universelles ambitieuses dans tous ces domaines? Aujourd'hui, on observe qu'il y a un fossé béant entre le droit commercial, le droit de la protection des investissements, qui font aujourd'hui l'objet de droits durs dans des traités internationaux, qui supposent des engagements contraignants des États, avec des sanctions économiques à la clé quand les États ne respectent pas ces engagements. Et par ailleurs, un droit international des droits humains, des droits sociaux, des droits de l'environnement, qui sont beaucoup plus mous et qui édictent des grands principes, mais qui nécessitent d'être transposés dans le droit national des États. Et quand ça n'est pas fait, finalement, ça porte souvent peu à conséquence. Et donc, on a une espèce de hiérarchisation qui fait primer, finalement, l'économie sur le reste des considérations. Et c'est une hiérarchisation qui est d'ailleurs assumée par les États, hein, parce que, par exemple, quand l'Union européenne a négocié l'accord de Paris à la COP21, elle avait expressément donné pour mandat à ses négociateurs de ne prendre aucun engagement dans l'accord de Paris sur le climat qui porterait préjudice au commerce. Et donc, on voit là qu'on a un vrai deux poids, deux mesures. Et par ailleurs, est-ce que c'est souhaitable de prendre toutes les réglementations à l'échelle internationale? Il y a évidemment des enjeux globaux qui ont été cités et une forte interdépendance des États pour traiter d'enjeux comme le climat, les pandémies ou ce genre de choses, qui nécessitent des réponses coordonnées pour s'assurer ensemble qu'on tient les objectifs à l'échelle internationale qu'on a besoin de tenir. Mais en pratique, il n'y a pas forcément une seule façon, un seul modèle de politique publique ou d'arrangement institutionnel souhaitable pour traiter ces questions-là. Et donc, on peut considérer que les différents groupes humains, les différentes sociétés doivent pouvoir conserver une certaine indépendance pour définir collectivement et démocratiquement les meilleures solutions pour eux. Et c'est la raison pour laquelle l'échelon national, l'échelon européen, dans notre cas, peut rester absolument pertinent.
Mais faudrait-il pas plutôt, malgré tout, combattre la logique des frontières, parce que beaucoup de questions, justement, transcendent ou concernent toute l'humanité, des questions de santé, comme vous les avez citées, ou des questions de droits humains aussi?
Mais pour avoir beaucoup travaillé sur la promotion de propositions pour mieux protéger les droits humains, pour mieux protéger l'environnement, on s'aperçoit que c'est quand même souvent difficile d'obtenir un accord à l'échelle internationale. Par exemple, si on prend l'exemple de, je parlais des pesticides tout à l'heure, de l'interdiction du glyphosate, idéalement, si on pouvait d'un claquement de doigts dire que ça devient interdit à l'échelle internationale, ce serait évidemment une solution optimale. Sauf qu'on voit que déjà à l'intérieur de l'Union européenne, on a du mal à se mettre d'accord et qu'il faudra certainement passer par des interdictions nationales avant de réussir à obtenir une interdiction européenne. Et pour donner un autre exemple, j'ai beaucoup travaillé moi sur la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi qui prévoit d'exiger de la part des grandes entreprises qui opèrent en France de prévenir les violations des droits humains et du droit à l'environnement qui peuvent survenir dans leur chaîne de valeur, donc leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Et c'est exactement la même chose. On est en train de négocier à l'échelle internationale un traité à l'ONU sur ces sujets-là, mais on voit que ça a plusieurs fois échoué dans l'histoire. Et donc la loi française est un premier pas qui est maintenant cité en exemple absolument partout, qui, on l'espère, donnera un jour naissance à une directive européenne sur le même sujet et à un traité international contraignant. Mais vu la difficulté d'aborder ces sujets-là, le fait aussi qu'il n'y a pas d'espace public européen et d'espace public véritablement international pour pouvoir débattre de ces sujets, il faut souvent pouvoir passer par des échelons et une communauté sociale et politique inférieure pour pouvoir élaborer des règles ambitieuses.
Merci beaucoup. Merci, Madame la procureure. Monsieur l'avocat, c'est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Madame Dupré, vous parlez de miel pour un avocat qui doit défendre les frontières. Puisque, si j'ai bien compris, même pour militer ou défendre des grandes causes qui concernent l'ensemble de l'humanité, l'échelon national reste un bon échelon. Et même garantit la possibilité d'un combat politique, si j'ai bien compris.
Alors, les choses peuvent être amenées à changer, mais effectivement, aujourd'hui, on le voit dans la façon dont on travaille. On doit souvent passer effectivement par l'échelon national pour pouvoir construire des solutions collectives et coopératives à l'échelon international.
Donc on risquerait presque de dissoudre des possibilités de combat pour des grandes causes en dissolvant ces communautés politiques.
Sur ce sujet-là, je voulais citer les travaux de Danny Roderick, qui est un économiste américain, qui parle d'un trilemme ou d'un théorème impossible. C'est dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le paradoxe de la mondialisation » en 2011. Et il dit, lui, que c'est très difficile aujourd'hui de combiner à la fois un modèle économique hyper mondialisé avec une intégration économique profonde, mais de conserver en même temps la capacité d'élaborer les politiques de façon démocratique et le troisième pilier d'avoir l'exercice d'une souveraineté sur un territoire ou sur un ensemble de territoires. Et donc on a une vraie tension entre ces différentes composantes et qu'aujourd'hui c'est difficile de réunir les trois. Et donc quelque part lui...
Il en conclut quoi du coup?
Dans son travail, il montre notamment que avant la phase d'hypermondialisation dans laquelle nous nous trouvions, on était dans un monde, celui du compromis de Bretton Woods, où il y avait quand même des formes de contrôle de capitaux, il y avait certaines formes de restrictions aux échanges commerciaux, et que finalement c'était la garantie de pouvoir avoir à la fois l'exercice de la souveraineté et des vrais choix démocratiques. Et donc peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière dans la mondialisation des commerciales et des échanges.
Donc l'estompement des frontières, en tout cas pour une certaine catégorie de circulation, celle des biens et des services et des flux financiers, n'est pas une bonne chose. Si j'ai bien compris.
Aujourd'hui, elle
n'essaie pas d'influencer le témoin.
Non, mais je dirais qu'aujourd'hui, la libre circulation non régulée du commerce, des échanges, des biens, des services pose un certain nombre de problèmes. Je parlais de l'accord de Paris sur le climat. On voit aussi que aujourd'hui en France, on a réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais qu'on a beaucoup délocalisé nos émissions de gaz à effet de serre et que finalement, si on prend en compte les émissions importées, on continue à avoir une empreinte carbone qui augmente et donc il faut absolument prendre en compte ce genre de problème dans
l'organisation. Madame, ce que vous désignez exactement par émission importée, je ne suis pas sûr que tous les membres du public soient familiers du concept.
Ça peut être déduit de montant ?
Ça sera déduit de votre temps.
Merci.
Il s'agit des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites au cours de la fabrication de produits qui vont être consommés dans l'Union européenne ou en France, par exemple, mais qui auront été émises en Chine, notamment.
Je vous remercie. Reprenez maître pour une dernière question, si vous
Merci.
Le souhaitez.
Madame Dupré, est-ce que, selon vous, sont réunies aujourd'hui les conditions pour un monde vraiment sans frontières ?
Mais je pense que nous n'avons pas encore inventé les modalités qui permettraient d'organiser démocratiquement les règles de fonctionnement des marchés internationaux et de gestion des biens communs, et qui garantissent surtout la redevabilité des institutions politiques et internationales envers les citoyens. Donc, je pense que l'échelon national...
Encore une fois, maître, ce sera le bon dernier avertissement.
L'échelon national et européen reste pertinent pour un certain nombre de choix.
Merci, Madame Dupré.
Merci, maître. Merci, Madame Dupré. Je vous saurais gré de bien vouloir faire parvenir à la Cour, dans les plus brefs délais, l'ouvrage auquel vous avez fait référence dans votre témoignage. Très bien. J'appelle à présent notre quatrième et dernier témoin, Mathilde Unger. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir à la barre, décliner votre identité et justifier votre présence devant cette Cour ?
Je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Strasbourg.
Ah, c'est un endroit intéressant, il y a quelques tribunaux intéressants là-bas.
Auteur d'une thèse sur les frontières de la justice sociale et préoccupé par les générations futures.
Merci bien. Vous aussi, vous allez être interrogé 5 minutes par la procureure, puis 5 minutes par l'avocat. Mais avant cela, comme chacun des témoins avant vous, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Et pour ce faire, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Merci. Madame la procureure, c'est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par une question simple. Comment justifier les frontières qui ont toujours été déclenchères de guerre ?
Oui, vous avez raison. Les frontières ont évidemment produit des guerres sanglantes et même aujourd'hui des situations humanitaires qui sont inacceptables, mais... Si on regarde dans l'histoire, à quoi correspond, prenons le sujet au sérieux, la suppression des frontières ? La suppression des frontières, ce n'est pas la fédération, c'est l'invasion, l'annexion, l'extension d'un empire. Est-ce qu'il nous semble que ces phénomènes sont favorables à la paix ? Je n'en suis pas sûre. Et j'ajoute aussi que le creusement des inégalités que produit l'économie mondialisée est à l'origine de conflits qui peuvent être tout aussi violents. Ce ne sont pas des guerres au sens classique, et néanmoins, elles peuvent être productrices de grandes violences.
Mais dans cette logique-là, du coup, les hommes, l'humanité, les hommes n'ont pas les mêmes droits, tous. Il y a des personnes protégées et il y a des personnes non protégées.
Oui, c'est sans compter sur l'existence de la pluralité des États. Évidemment, une communauté dans laquelle tout le monde aurait exactement les mêmes droits serait une communauté qui serait vide de sens. En revanche, ce qu'on peut défendre, c'est le fait de dénationaliser certains droits. C'est-à-dire que ce qu'on trouve insupportable, c'est le fait de faire de la nationalité le seul et unique critère d'accès aux droits. Mais pour autant, on peut considérer que non seulement chacun... pourrait avoir ce droit à avoir des droits dont parlait le premier témoin et donc bénéficier de droits dans son État. Et puis surtout, on pourrait exiger que l'État, lorsqu'il détermine les droits qui correspondent à un individu ou un autre, qui ne seraient pas ressortissants de son État, eh bien respecte certains critères. On en a déjà parlé tout à l'heure. Je pense qu'un des critères importants, c'est que l'État exclut tout ce qui relève de la discrimination. C'est ce que permet le droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour rapprocher le statut du citoyen du statut du résident de longue durée, on se fonde sur l'ancienneté et non pas sur le sexe, la race, la religion. Il me semble que soumettre ces critères à des exigences fortes, c'est sans doute plus important que espérer faire ce pari fou qu'en levant les frontières, c'est-à-dire en supprimant ces seuls contextes qui, pour le moment, nous ont permis de connaître la protection de droits démocratiques, eh bien, on pourrait arriver à une meilleure protection des droits individuels. Je ne suis pas sûre que le gouvernement mondial soit le meilleur ami de la protection des droits tout universel soit-il.
Mais au final, si les États, du coup, gardent la main sur les personnes qu'ils incluent à leur communauté sociale, mm-hmm. ils peuvent très très bien toujours exclure certaines personnes qui ne sont pas souhaitables à avoir sur le territoire de certaines régions.
Ah ben, bien sûr, c'est-à-dire que si vous enlevez aux États la possibilité d'exclure de leur territoire quelqu'un pour des raisons de sécurité publique, par exemple, vous leur enlevez leur souveraineté.
Alors, mais je parle de personnes moins qualifiées, je parle de personnes avec une
certaine
religion.
Bien sûr, alors vous posez une question très différente, c'est-à-dire que ce que vous remettez en cause, c'est pas
la
souveraineté.
Merci de noter, madame la témoin.
C'est pas la souveraineté, pardon.
Merci de noter que c'est une question différente.
Non, mais c'est vrai, c'est une question différente, c'est-à-dire celle de savoir si l'État a le droit de rester souverain sur ses frontières, ou bien celle de savoir quels critères l'État peut utiliser pour inclure ou exclure quelqu'un de son territoire, ou inclure ou exclure quelqu'un, ça me semble encore plus important, de sa communauté sociale, économique et politique. Et à ce titre. La frontière est une institution commune, c'est-à-dire qu'elle doit rendre des comptes dans une société démocratique. Et je suis très sensible à cet aspect-là, et à la fois, et même la communauté internationale, hein, d'ailleurs, peut soumettre les États au respect de certains critères. Je réutilise hein, le principe de non-discrimination, il me semble qu'il est fondamental, c'est-à-dire que la communauté internationale peut attendre des États qu'elle ne se fonde pas sur l'orientation sexuelle de quelqu'un pour déterminer s'il risque ou non d'être une menace pour la santé publique, évidemment. La communauté internationale, elle le fait, peut exiger que les États donnent des voies de recours à ceux qui se présentent aux frontières et qui sont candidats à l'accueil. Mais évidemment, il faut retourner la question, et la formulation est radicale, et donc évidemment les objections sont assez radicales aussi. Est-ce qu'un gouvernement mondial, est-ce qu'un monde sans État serait plus respectueux des droits? Est-ce que tout ce que la pluralité d'États permet comme quête de respectabilité hein, des États dans la communauté internationale ne serait pas... ne s'envolerait pas dès lors que une seule autorité existerait hein, dans la communauté internationale.
Bien. Merci, Madame la Procureure. Merci. Maître Laporte, le témoin est à vous.
Merci, Monsieur le Président, Madame Unger. Si j'ai bien compris, en attaquant les frontières, on se trompe d'ennemis.
Oui, je pense qu'on se trompe d'ennemis. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le combat, c'est pas la suppression des frontières, c'est la justification des frontières. C'est-à-dire, les frontières, c'est une institution comme les autres dans un État démocratique, et il faut pouvoir la justifier, il faut pouvoir rendre des comptes.
Vous avez parlé tout à l'heure, pardon, je vous interromps, mais vous avez parlé tout à l'heure de dénationalisation des droits, hein, effectivement, de déconnecter le fait d'avoir des droits de la stricte appartenance à une nation. Et est-ce qu'on pourrait même considérer que la suppression des frontières soit un obstacle à cette dénationalisation des droits?
Bien sûr, je pense que les progrès qu'on connaît dans le processus de dénationalisation des droits, c'est-à-dire le fait que la nationalité ne soit plus le seul critère d'éligibilité aux droits, eh bien, ce qui permet ce progrès, c'est l'assurance qu'ont les États qu'ils restent souverains, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à fixer les règles qui s'appliquent sur leur territoire.
Dans leurs frontières.
Dans leurs frontières, qu'il s'agisse de citoyens ou de résidents. Et je pense que cet argument peut même justifier d'accorder un droit de vote à des résidents qui ne sont pas des citoyens. Mais c'est en ayant l'assurance que le principe de l'autodétermination dont on parlait tout à l'heure est respecté, qu'ils pourront assouplir les modes, les critères d'inclusion à la communauté politique, ce qui me semble essentiel.
Donc on peut être progressiste en matière de droit et pourtant défendre les frontières.
Bien sûr. Alors c'est la grande victoire d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, et il avait en Marine Le Pen une meilleure ennemie, hein, d'une certaine façon, c'est de nous faire croire que l'ouverture des frontières était du côté du progrès et que tout ce qui remettait en question la mondialisation était de l'ordre du populisme, de l'arrière-garde, etc. Alors, je pense que voir l'ouverture, en général, comme allant dans le sens de l'histoire, c'est inexact pour la simple raison que le libre-échange lui-même est le résultat d'un accord international. À partir du moment où on comprend que le libre-échange est permis par un accord entre des États qui sont des entités qui ont une personnalité juridique et qui ont une personnalité juridique parce qu'ils ont des frontières. Alors la question n'est plus de savoir si on est ouvert ou fermé d'esprit. La question devient de savoir ce qu'on veut mettre dans cet accord qui est toujours là, que la frontière soit ouverte ou que la frontière soit fermée.
Donc vous pouvez certifier aux membres du jury ici présents que quand tout à l'heure ils vont se prononcer pour le maintien des frontières, ils ne seront pas d'affreux nationalistes.
Mais je vous regrette de ne pas tenter d'influencer le jury.
Bien au contraire.
Je reformule la question.
Le moment de votre plaidoirie viendra.
Je pense qu'on peut être très attaché à un ordre international juste, équitable, et pour cette raison-là, être attaché à la voix des États et sentir que c'est à cette condition-là qu'on peut aussi les rappeler à leurs engagements, hein, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse de relations économiques inéquitables. Commençons par rappeler les États à leurs engagements. Et si on veut les rendre responsables, il faut admettre qu'ils ont une personnalité et donc une entité qu'on peut les identifier.
Et donc une frontière.
Et donc une frontière.
J'en ai fini, Monsieur le Président.
Merci, merci Madame Unger. Vous pouvez retourner à votre place. Bien, nous en avons à présent terminé avec l'audition des témoins. Merci à chacun et à chacune pour votre attention. Viennent à présent les réquisitoires et plaidoiries de la Cour. J'appelle en premier à la barre Madame la procureure. Madame Holzer, vous avez la parole pour votre réquisitoire à la barre, s'il vous plaît.
Ah, merci.
Je vous en prie.
Mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, quand une utopie n'est pas réalisée, n'est-elle donc pas réalisable et faut-il alors l'abandonner en baissant les bras et en sauvegardant le statu quo? L'utopie dont je parle, c'est celle d'un monde plus juste, plus ouvert et plus libre, dans lequel les mêmes droits sont accordés à toutes les personnes, peu importe leur nationalité ou couleur de peau, leur religion, leur pays ou région d'origine. Je parle d'une utopie qui est celle d'un monde sans frontières, qui sépare les humains de manière artificielle et arbitraire, parfois sans aucun rapport avec les usages et les histoires des peuples qui vivent dans des espaces géographiques, comme par exemple dans de nombreux pays d'Afrique au moment des colonisations et décolonisations. Des pays qui souvent ne proposent pas assez de perspectives pour leur peuple, dont une partie essaie de migrer. Visiter ces camps de réfugiés et aller voir ces personnes sans toit pour dormir, sans eau pour se laver, pour manger, pour vivre, sans identité, sans d'autre avenir qu'un espoir d'une vie meilleure, espoir brisé sur les murs de notre frontière blindée et high-tech. Et les frontières qui d'ailleurs nous coûtent des milliards qu'on pourrait mieux investir dans l'aide vers des pays en difficulté. Ces personnes fuient des guerres, de la persécution et parfois tout simplement des situations économiques insupportables, aggravées par les changements climatiques en cours dont nous sommes parfois, nous riches Européens, en partie responsables. Responsable de nos comportements consuméristes égoïstes. Ces femmes, ces hommes, ces enfants ne sont pas responsables, n'ont commis aucune faute. Pourtant, nos frontières les rendent coupables du délit d'occuper nos espaces délimités. Pire, heureux nous sommes, nous Européens, cajolés au lait de ces parfums d'aloe vera, amateurs éclairés de cacao, éthiques et responsables. Heureux nous sommes de visiter, de voir ces cultures indigènes si exotiques, de nous plonger dans leur quotidien, mais pour quelques jours seulement, le temps de notre forfait acheté dans notre agence de voyage préférée. Qu'est-ce qu'on aime voir ces beaux turbans touareg, et comme on adore goûter ce bon pho de la vallée du Mekong. Un des derniers best-sellers de nos belles librairies parisiennes est un livre d'un historien israélien, Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Dans ce livre, il parle de la naissance de l'homme et de son accaparation du monde moderne. Demandons-nous ce que ce monde serait devenu si ces homo sapiens avaient eu à franchir des frontières sans ou avec visa. L'histoire du monde montre finalement que celui-ci a grandi à chaque fois qu'il s'est ouvert aux autres. Et d'ailleurs, un grand nombre de problèmes politiques transcendent les frontières nationales en matière d'environnement, de santé, de régulation économique ou de droits humains. Quel pays ou région du monde n'a pas connu ces vagues de migration sans en tirer des bénéfices culturels, économiques, sociétaux? Les États-Unis de Trump ont été construites par l'immigration volontaire ou non des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Irlandais, des Chinois ou des Noirs d'Afrique. L'Espagne et l'Italie et leurs morts, et la France et ses barbares. Senghor, l'homme d'État sénégalais, poète, écrivain, académicien, disait « Deux peuples qui se rencontrent se combattent souvent, se mélangent, se métissent toujours. » Gardons en tête alors ce principe non seulement humaniste, mais aussi humain. Finalement, le paradoxe de notre actualité est ici. Alors que les moyens de nous mélanger les uns aux autres via nos médias de transport ou de communication et diffusion de l'information n'ont jamais été aussi grands et puissants, notre propension à nous renfermer et à nous isoler entre nous grandit. Est-ce que c'est la peur de l'autre, de l'inconnu de la maison, la peur peut-être de la perte de notre confort à nous? Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, disait une vieille publicité de la SNCF, selon Hérodote. Il y a donc deux façons de vivre ce modèle. D'abord, de manière cynique, et dire alors qu'il est utopique et illusoire de croire que la prospérité pourra être apportée à tous et partout. Il nous faut alors mettre à côté complètement tous nos principes humanistes, ces droits de l'homme si vantés et glorifiés à Bruxelles, égalité et fraternité en France. Et puis, il y a l'autre manière qui nous donne ce principe utopique de rêver à un monde sans frontières. Et pour finir, quel monde souhaitons-nous offrir aux générations futures? Les frontières, ces limites spatiales et géographiques écrites par les vainqueurs, restent pour beaucoup des cicatrices d'une certaine histoire. Elles sont toujours source de conflits et de guerres. Un proverbe chinois dit que « chevaux de guerre naissent sur les frontières ». Pensons à ce mur qui a traversé l'Europe et dont nous avons fêté la chute il y a peu. Je suis allemande et je sais les souffrances que mes parents ont vécues quand leurs familles ont été du jour au lendemain séparées. Comme cela, d'un claquement de doigts administratif au nom d'un certain bonheur, à l'époque qu'on disait communiste. Un monde sans frontières, serait-il plus doux? Tout dépend de notre volonté commune. Merci pour votre écoute et pour vos votes engagés.
Merci, Madame la procureure. Avant de passer au verdict, le dernier mot est à la défense, naturellement. J'appelle donc à la barre Maître de la Porte. Vous avez la parole pour Merci. Votre plaidoirie.
Merci, Monsieur le Président.
À la barre également, s'il vous plaît.
Madame, Messieurs les jurés, rassurez-vous, je ne vais pas vous convaincre qu'il est bon d'élever des murs et de laisser mourir en mer des femmes, des hommes et des enfants qui veulent juste vivre dignement. Je ne vais pas vous convaincre qu'il faut considérer comme barbares ceux qui ne parlent pas notre langue, qu'il faut se faire la guerre pour quelques kilomètres carrés de forêt ou de désert. Je ne serai pas l'avocat de toutes les abominations qui ont été commises et le sont encore au nom des frontières. Néanmoins, est-ce une raison pour s'en passer? Les horreurs du monde brouillent notre regard, c'est tout à fait légitime. Mais je vous demande solennellement de voir les frontières pour ce qu'elles sont aussi. Une frontière n'est pas seulement le mur derrière lequel le riche et le prospère se protègent des assauts des plus démunis qu'eux. Dans ce monde du capitalisme, échevelée qu'est le nôtre, où l'économie la plus forte impose sa loi, la frontière est aussi ce qui légitime le plus faible à se protéger du puissant, à se protéger de celui qui voudrait qu'on ne pose aucune limite à sa puissance. La frontière est ce qui permet à un peuple de dire « à partir d'ici, j'ai le droit de ne pas me soumettre au plus fort ». La frontière n'est pas seulement un obstacle à la liberté, elle est aussi là où commence la liberté. Pensez à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont donné leur vie pour faire passer des frontières. Par exemple, en France, entre la zone libre et la zone occupée, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entendez encore aujourd'hui résonner le formidable soupir de soulagement d'une famille juive qui savait qu'à partir de là, à partir de cette ligne imaginaire mais bien réelle, elle ne risquait plus rien. On l'oublie trop souvent, mais la frontière est aussi ce qui limite l'extension de la barbarie. La frontière n'est pas seulement ce qui sépare, elle est aussi ce qui différencie. Il faut préserver la possibilité qu'ailleurs ce soit autrement. Qu'ailleurs je puisse être quelqu'un d'autre. Je sais bien que la différence s'accompagne toujours, inévitablement, de la tentation de la hiérarchie. Que la différence est toujours source de conflit. Il faut se garder, évidemment, de l'un et de l'autre. Mais la différence est aussi ce qui fait penser. Bien sûr, il y a des différences à l'intérieur des frontières. Heureusement, les Espagnols ne sont pas tous les mêmes, les Allemands ne sont pas tous les mêmes. Mais les différences entre nations nous structurent. Elles sont des imaginaires à la fois nécessaires et risqués. Quel aveu terrible de ne plus être capable de prendre le risque de ces différences. La frontière n'est pas seulement ce à quoi on se heurte, elle est aussi ce à quoi on s'adosse. Elle est ce à partir de quoi on peut commencer quelque chose. Toutes les révolutions, même celles qui se sont étendues à l'ensemble du monde, ont débuté dans des espaces délimités où elles étaient pensables, où elles étaient possibles. Même dans sa vocation universelle, la Révolution française a commencé dans les limites d'un pays dont, par ailleurs, il a fallu défendre les frontières contre ceux qui voulaient que demeure l'ordre établi. J'en suis désolé, mesdames et messieurs les jurés, mais on ne connaît pas de révolution qui ait commencé à l'ONU. La frontière n'est pas seulement ce qui enferme, la frontière est aussi ce qui préserve. Pensez à ce qu'il a fallu de réflexion pour que les humains acceptent qu'il y ait des lieux de la nature où ils ne sont pas les bienvenus. Oui, madame et messieurs les jurés, on le sait aujourd'hui, il faut poser des limites à l'humain. Même la nature a besoin de frontières. Le grand tétra, ce beau gallinacé des monts, des Vosges et du Jura, cesse de se reproduire s'il entend ne serait-ce que les pas feutrés d'un humain en raquette. Le grand tétra est menacé aujourd'hui. Il a besoin de frontières, tout comme des milliers d'espèces végétales et animales. Madame et messieurs les jurés, de quel droit nous permettrions-nous, ici, dans ce petit cénacle où je ne vois rien d'autre que des humains, nous permettrions-nous d'abolir les frontières alors que d'autres vivants en ont tellement besoin ? Abolissez les frontières, mais vous ne savez pas quel tour prendra le monde. Voulez-vous risquer qu'après quelques décennies, quelques mois d'euphorie nomade, il n'y ait plus aucun lieu où fuir l'empire de Donald Trump ou de Xi Jinping? On connaît des empires sans frontières, Facebook en est un. Voulez-vous que rien ne puisse être opposé à leur puissance? Voulez-vous risquer qu'il n'y ait plus aucun ailleurs désirable parce que partout s'est imposée la même loi, celle du profit? Voulez-vous risquer que l'humain se sente à nouveau autorisé partout et que la nature subisse partout ce que subit l'Amazonie? Les frontières doivent donc être maintenues, c'est une évidence qui ne mérite aucune contestation. Bien sûr, il faudra peut-être en redessiner certaines, ou en dessiner de nouvelles. Bien sûr, il est essentiel de discuter de qui ou quoi a le droit de les traverser et à quelles conditions. Et je suis certain, cher procureur, que malgré ce qui nous oppose fondamentalement, nous pourrions nous mettre d'accord sur ces conditions. Que les mondes auxquels nous rêvons chacun ne sont pas si différents. Mais cette discussion, c'est l'affaire de la politique, pas de la justice. Et nous savons tous qu'elles font bon ménage. Mauvais ménage, pardon. Là, c'est la corruption qui surgit tout à coup. Je vous en conjure, madame et messieurs les jurés, ne vous trompez pas d'assemblée. Certes, il y a beaucoup à faire pour que les frontières cessent de nous faire horreur. Mais c'est l'affaire de la politique. Nous sommes ici dans un tribunal qui doit décider s'il faut les supprimer ou non. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui nous prouve que les frontières ne sont pas un obstacle, mais au contraire un préalable à un monde meilleur. Un monde meilleur que nous voulons tous. C'est la seule chose que je vous demande d'avoir en tête quand vous aurez à vous prononcer en votre âme et conscience. Merci.
Merci, maître. Bien, messieurs et madame les jurés, vous avez entendu les plaidoiries et l'heure du verdict a maintenant sonné. Je vais vous demander de me suivre pour délibérer dans l'intérêt des générations futures. En attendant, j'invite l'audience, s'il le souhaite, à prolonger les échanges en posant des questions à nos témoins qui sont à sa disposition. Je vous laisse donc entre les bonnes mains de l'avocat et de la procureure. Nous serons de retour dans quelques minutes.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Alors ces questions, c'est que ça peut être des questions ou des remarques qui visent à prolonger ce qui a été dit par les témoins auditionnés pendant cette séance. Est-ce qu'on peut faire un vote à main levée alors ? Pour voir si durer vote comme les... Non ?
Bah, si, si, je pense qu'il faut...
Bon, on verra après.
Il faut...
Ces vastes sujets sur l'immigration et sur la frontière, je n'ai jamais pu sourire ou rire. Je ne sais pas comment vous l'avez, je sais pas, mis en mise en scène avec un décalage de cela. C'est très sérieux. C'est très sérieux d'arriver à la frontière, d'être sous un choc, sous une peur. Vous n'avez pas vécu peut-être. Et je trouve que la frontière, c'est mental, mental. Si vous savez. On a tous des frontières quelque part. Évidemment, hein, ce qui s'y passe avec cette politique ici et là, ça est devenu énorme. Alors ça ne me fait pas aller rire du tout. Voilà.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, des témoins. Forcément, ça ne fait pas rire. C'est une mise en scène, effectivement, mais on a entendu des arguments très sérieux. On a essayé de poser des questions très, très sérieuses.
Et je ne crois pas aussi qu'on ait eu d'arguments de mauvaise foi, par ailleurs. Oui, ben, si vous voulez.
C'est dramatique, c'est que les images nous confient quand ils veulent nous montrer. Au nom de ça, ça fait que je suis grec et j'ai honte de mon pays à propos de Lesbos, par exemple. C'est une frontière aussi. C'est honteux. Ou bien le gâchis humain. Au nom de ça, je vous parle.
Une autre remarque, une autre question ?
Bonjour, merci pour vos échanges. Une question pour monsieur l'avocat. Vous avez dit qu'aucune révolution n'avait jamais démarré à l'ONU. Que pensez-vous alors des objectifs de développement durable ? N'est-ce pas la bonne prochaine révolution ?
Là, je m'en remettrai à ce que ont dit plusieurs des témoins cités ici, qui ont dit que ce n'était pas parce que les objectifs étaient internationaux que les États et que les nations n'étaient pas des masses critiques ou des juridictions impertinentes pour passer ce type d'accord.
D'accord, mais le démarrage pourrait être...
Je ne sais pas, qu'est-ce qui a démarré à l'ONU ?
Non, mais je pense que ça avait été bien redit par le dernier témoin, mais effectivement, même à l'ONU, ce sont des États qui négocient. Et donc, ils ont un mandat qui leur a été confié dans l'espace national avec déjà un débat public et politique qui a eu lieu dans l'espace national. Et rien n'apparaît comme ça de façon complètement magique à l'échelle internationale. Donc... l'exemple que je donnais sur la loi sur le devoir de vigilance me semble un exemple important parce qu'effectivement on nous a souvent reproché aux associations et aux syndicats qui avons travaillé sur cette loi de dire qu'il fallait que ce soit un texte international et que même la France se tirait une balle dans le pied si elle
mettait de nouvelles obligations sur les entreprises multinationales en matière de protection des droits humains si seules les entreprises établies en France étaient soumises à de telles obligations. Et en réalité, on voit que ce texte est déjà cité, il a été adopté en 2017 et il est déjà cité en exemple à l'échelle européenne. Il donne lieu à plein de campagnes similaires dans plein d'autres pays à l'échelon national. Et dans les négociations internationales à l'ONU, il fait figure de modèle. Donc on espère vraiment qu'il va permettre d'élaborer des règles internationales contraignantes.
Bonjour, enfin bonsoir. Moi j'ai une question un peu floue, mais jusqu'où, enfin quelle est exactement la définition d'une frontière et jusqu'où on peut l'élargir en fait ? Et est-ce qu'on pourrait dire que par exemple une communauté qui s'auto-organise, qui définit son territoire de vie, pose des frontières ou enfin qu'est-ce que ça pourrait signifier par exemple une frontière pour une communauté ? Est-ce que la ZAD avait défini ses propres frontières ? Enfin, je prends la ZAD parce que c'est un exemple un peu emblématique et connu, mais est-ce qu'une communauté qui s'auto-organise pose ses frontières et où on parle d'autre chose que de frontières ?
Oui. Je crois que c'est une très bonne question. Et la théorie démocratique nous dit que les frontières ne peuvent jamais être véritablement démocratiquement légitimées par un peuple qui aurait un droit, qui serait le propriétaire de sa juridiction. Il faudrait soit faire une régression infinie dans le temps ou faire appel à cette fable de l'état de nature où tous unis par un pacte souverain, nous aurions pris possession de tel ou tel territoire. Donc en toute logique, c'est impossible de justifier la frontière avec les moyens démocratiques. Mais si vous permettez, j'enchaîne sur ce que vous disiez, madame. Je crois qu'on est tous absolument affectés comme vous et tout à fait conscients de la gravité de ce qui se passe depuis 2015. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais une question qu'on pourrait se poser, et je crois qu'on l'a évoqué, en tout cas la dernière témoin et moi-même, c'est est-ce que c'est le fait de la frontière, que Lesbos soit le poste frontière, ou est-ce que c'est une question de violation des droits humains ? Qu'on accepte, parce que, à mon sens, c'est une violation des droits humains. C'est de ça qu'il s'agit, avant d'être une question de poste frontalier. Il se trouve que Lesbos, entre autres, Lampedusa l'a été, est un poste frontalier, mais ce dont il s'agit, c'est d'un crime plus élevé presque dans la hiérarchie normative que le simple fait de garder une frontière. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait que nous soyons très motivés pour défendre les droits humains partout, ce que nous défendons pour les nôtres et à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut à la fois défendre les droits humains aux frontières et à l'intérieur des frontières. C'est déjà un très vaste programme.
Oui, je crois que là il y a une question qui distingue d'une certaine façon la protection que l'État peut apporter à l'égard de ses nationaux à l'intérieur de ses propres frontières. Effectivement, la frontière peut protéger dans ce cas-là de droits imprescriptibles qui sont de nature internationale, qui sont aussi des droits de l'homme, comme le droit d'asile, par exemple. Le droit d'asile, c'est un principe qui aujourd'hui a valeur universelle, écrit dans la Convention de Genève et qui dit que toute personne persécutée ou craignant de façon fondée une persécution a le droit d'obtenir l'asile dans un autre pays que le sien. Donc là, il y a une dimension qui ne couvre pas seulement les citoyens d'un État, mais une protection des hommes et des femmes de tout État au nom de la demande de fuir la persécution, par exemple. Donc là, il y a un aspect international. De même que la lutte contre l'apatridie. Toute personne a le droit d'avoir une nationalité. Il y a des situations de crise qui conduisent à l'absence de nationalité. Et c'est à la communauté internationale et aux pays qui ont des apatrides d'essayer de trouver une solution contre ce genre de droit fondamental, par exemple. Donc on a les deux. On a les deux. Et ce qui se passe à Lesbos, c'est tout à fait dramatique. Ce que je voulais rappeler simplement, c'est que vous avez bien sûr légitimement posé l'interrogation. Est-ce qu'il faut faire un tribunal pour essayer de sensibiliser sur cette question ? Ou alors, est-ce qu'on regarde le mode de décision
des politiques. Ici, on a essayé de fonctionner comme un tribunal. Les politiques qui décident sur ces thématiques des frontières, ils n'écoutent même pas la procédure que nous avons suivie ce soir, mais ils regardent les sondages. Ils regardent la montée des extrêmes droites comme péril politique pour leur maintien au pouvoir. Et donc, on est dans une mise en scène de la frontière, en réalité, pour essayer de dire « rassurez-vous, nous assurons le contrôle de la frontière et nous sommes en mesure de poser un défi à ceux qui demandent plus de frontières ou moins de frontières ». Mais on n'est jamais dans le rationnel. Le savant et le politique sont dans un jeu inégal dans la délimitation du contrôle des frontières telles qu'ils exercent, ils s'exercent aujourd'hui dans les pays du monde, les pays les plus forts, qui sont des pays d'immigration.
Merci à tous.
Très bien, j'espère que le temps des questions a été instructif. Madame et messieurs les jurés, l'heure du verdict a donc sonné. Je vais inviter chacun de vous à prendre le micro. Je vais vous interroger pour que vous puissiez énoncer votre verdict et le justifier, s'il vous plaît, avec un et un seul argument. J'appelle le juré numéro 1. Faut-il supprimer les frontières ?
Alors, ma réponse est pour le maintien des frontières. Mon argument est que, tout d'abord, par rapport aux discussions que l'on a eues, la problématique n'est pas vraiment sur les frontières, mais plus sur la circulation et sur le fait que donc, les frontières marquent des différences, mais les différences, ça fait partie aussi de la richesse dans le monde dans lequel on vit.
Je vous remercie. J'appelle à présent le jury numéro 2 pour énoncer à votre tour votre verdict. Faut-il supprimer les frontières ?
Ma réponse est non. Je suis également pour le maintien des frontières. C'est une question de contrôle qui se pose en premier pour moi. Et d'abord, comment se ferait la prise de contrôle ? Et s'il n'y a pas de prise de contrôle et qu'on garderait les États indépendants sans frontières, je pense que certains États essaieraient de prendre le dessus. Et c'est ça qui m'inquiète pour les générations futures.
Je vous remercie. C'est le tour du troisième juré. Faut-il supprimer les frontières ?
Alors, je m'exprime aussi pour le maintien des frontières. Et la raison pour laquelle j'ai pris cette décision, c'est que pour moi, la question, elle n'est pas tant sur le sujet des frontières. Le discours évoqué par Madame le procureur, pour moi, traite plutôt de la question de l'égalité. Et aujourd'hui, la suppression des frontières ne permettrait pas de résoudre le problème d'inégalité. Et au contraire, pour moi, c'est une question, la frontière est un outil aujourd'hui. C'est une question de bien l'utiliser. Et donc, si cet outil est bien utilisé, ça pourrait être un pas vers justement plus d'égalité. Voilà.
Je vous remercie. J'appelle à présent la quatrième jurée. Quel est votre verdict ? Faut-il supprimer les frontières ?
Ma réponse est aussi pour le non et le maintien des frontières, car je trouve cette question est posée au présent. Dans le futur, j'aimerais vraiment qu'on puisse se la poser et y répondre positivement, mais aujourd'hui, faut-il les supprimer ? Pour moi, ce sera non, c'est trop dangereux à ce jour.
Merci beaucoup. J'appelle à présent le cinquième et dernier juré à rendre son verdict. Faut-il supprimer les frontières ?
Alors moi, je vote oui. Je vote oui.
S'il vous plaît, pas de réaction dans la salle.
Je vote oui au nom d'un certain idéal. Je vote oui parce que l'histoire a montré que le repli sur soi n'a jamais été une solution. Et je vote oui parce que je pense que les différences, ne serait-ce qu'au niveau culturel, se recréeront d'elles-mêmes et ne seront pas. Elles prendront peut-être une autre forme, mais ce n'est pas parce que des frontières seront abolies que les différences seront nivelées. Et parce que. À l'heure où certaines problématiques deviennent globales, et touche l'ensemble de l'humanité, il faut qu'il puisse y avoir un travail global qui soit engagé.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le jury a donc rendu son verdict, qui est clair, par 4-1. Il est arrêté ce soir que les frontières seront maintenues. C'est évidemment un exercice délicat et la délibération du jury a été lourde de responsabilités puisqu'il s'agit ici au fond de confronter l'ambition d'un idéal à l'horizon des possibles et que dans un monde qui était largement façonné par les frontières, effectivement, la perspective de leur suppression, puisque nous parlions ici de leur suppression et non de leur simple ouverture, fait aussi craindre que se dilue un certain nombre de principes, un certain nombre de différences. Il me semble néanmoins pouvoir dire que les jurés ont exprimé leur souhait que les frontières, si elles sont maintenues, soient davantage un élément de rencontre, potentiellement pourvoyeuse de davantage d'égalité plutôt qu'un facteur d'exclusion et de rejet comme elles le sont parfois devenues à certains endroits et à certains moments de l'histoire. Sur ce, mesdames, messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, il me reste à remercier en particulier les jurés pour leur attention, pour leur délibération, l'ensemble des membres du public pour leur attention, leur concentration, en particulier les membres les plus jeunes de ce public. À remercier, bien entendu, nos 4 témoins pour avoir éclairé par leur témoignage nos délibérations, ainsi que Madame la procureure et Monsieur l'avocat pour la manière dont ils ont mené les entretiens, pour l'engagement de leur plaidoirie et pour nous avoir fait entrevoir des questions que nous n'avions peut-être pas envisagées. Merci donc à tous et à chacun. Merci beaucoup à nos invités. Merci aux jurés. La séance est levée.
Donc c'est à moins qu'un comble mot de la fin pour remercier très chaleureusement Mathilde Unger. Mathilde Dupré, Catherine Wittold-Wenden, Astrid von Boussekist. Donc voilà, quatre formidables témoins. Et notre formidable cours, Birgit Holzer, Xavier Delaporte et le président François Gemmel. Donc voilà. Un grand merci à tous pour votre attention. Un grand merci à nos techniciens. Grâce à qui la soirée a donc été enregistrée. Vous retrouverez ça sur le site de la BPI. Vous retrouverez l'ensemble des ouvrages des personnes que nous avons entendues ce soir à la bibliothèque, avec de formidables bibliographies. Et il me revient de...
Et merci à vous pour l'organisation.
Mais je vous en prie. Et... Voilà, c'est les Césars. Merci, le Festival des idées. Donc, prenez le programme à l'entrée. Il y a encore demain une grande journée de débat. Et donc, à très bientôt à la BPI. Merci à vous.